Bonjour David Rigolet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFAS et associé à l'IRIS et ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Alors l'Ukraine et les États-Unis ont enfin signé hier un accord économique sur les fameuses terres rares qui, on le comprend, étaient devenues une sorte d'enjeu dans les relations diplomatiques entre les deux pays, surtout depuis l'altercation dans le bureau ovale. Alors qu'est-ce que dit cet accord? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine?
Oui, alors c'est un accord qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'effectivement, vous évoquez la scène spectaculairement scandaleuse qui avait eu lieu dans le bureau ovale, au moment où la première mouture d'un accord devait être signée, justement, lors de la visite du président Zelensky. Cette première mouture se présentait en réalité comme une forme d'extorsion. Elle était avec des conditions léonines pour la partie ukrainienne. Donc ça avait donné lieu effectivement à des commentaires acerbes, d'autant plus que justement avant la venue de Zelensky, il y avait eu une forme d'ultimatum de Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, de passage à Kiev, et donc c'était de mauvais augure, et on l'a vu lorsque la scène est intervenue. Et puis il y a une deuxième version un peu plus acceptable en mars, mais qui était encore très très inégale, et on voit que c'était une variable d'ajustement dans évidemment la condition du soutien américain à Kiev. Alors il se trouve que oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Kiev, qui a réussi à préserver un certain nombre d'intérêts malgré tout. C'est un accord sur les ressources naturelles avec la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction partagé à 50-50 entre États-Unis et les Ukrainiens. Donc du point de vue des deux signataires, en l'occurrence le Scott Bessent, secrétaire au Trésor, il a qualifié cet accord d'historique, un accord de partenariat historique, en mentionnant d'ailleurs c'était la reconnaissance du soutien américain, et je cite, depuis l'invasion à grande échelle de la Russie. C'est des éléments de langage qui sont peu familiers dans le discours de l'administration américaine. Et puis du côté de la partie ukrainienne, avec Yulia Sviridenko, c'est un accord qui est susceptible justement d'attirer les investissements mondiaux. Donc ça se présente a priori comme un accord gagnant-gagnant, même s'il y a une dimension politique très forte.
Alors on comprend, en gros, vous l'avez dit, hein, que l'idée c'est de financer la reconstruction de l'Ukraine en échange d'un permis d'exploiter les terres rares de l'Ukraine. Mais il y a quand même beaucoup d'inconnus. Déjà, on a du mal à évaluer la quantité de richesses minières que renferme le sol ukrainien. Et puis ensuite, apparemment, c'est quand même sur les territoires occupés par la Russie pour le moment.
Alors oui, il y a des angles morts, effectivement. D'abord, il y a des estimations, puisque initialement, d'ailleurs, le président Trump voulait récupérer quelques 500 milliards de dollars, une surestimation d'aide américaine. Ensuite, il a baissé à 350 milliards, alors que ça représente en réalité près de 130 milliards de dollars. Donc, mais l'enjeu est ailleurs. C'était une pression, effectivement, faite sur le gouvernement de Kiev, qui a dû céder à minima, parce que de toute façon, il savait que c'était indispensable. Il faut rappeler d'ailleurs que ce projet d'accord était une suggestion en septembre 2024 du président Zelensky lui-même, qui voyait la potentialité d'un soutien en creux, en réalité. C'est-à-dire à partir du moment où il y avait un engagement des États-Unis sur une logique d'extraction et d'exploitation, c'était une manière pour les Américains d'offrir des garanties de facto, même, alors même qu'ils refusaient des garanties de sécurité explicites sur le plan militaire. Et là, on retrouve les angles morts, parce qu'effectivement, une partie des ressources qui sont mentionnées, que ce soit le graphite, on va dire le manganèse ou le lithium même. Le lithium, il y a deux gisements très importants qui sont sur la ligne de front ou du côté des territoires occupés par la Russie. Et puis, par ailleurs, pour les garanties de sécurité, évidemment, elles ne sont pas mentionnées explicitement. Et le président américain les reporte sur les Européens, effectivement, en disant que finalement, c'était aux Européens d'assurer la sécurité, une délégation, en réalité, qui lui permet de ne pas trop s'engager, puisque lui-même avait considéré qu'il n'était pas question d'offrir des garanties au-delà de beaucoup, je cite. Mais en même temps, cet engagement américain, effectivement, est le minimum qui était attendu pour la partie ukrainienne, parce que le fait effectivement d'être l'exploitant, en tout cas en partenaire, ça offre évidemment pour un signal pour les dirigeants russes, et d'ailleurs ça a été mentionné comme tel par Scott Bessent, un signal effectivement qu'il y a une présence militaire américaine au moins économique, qui doit faire l'objet de, effectivement, d'une forme de dissuasion.
Alors, est-ce que ça reflète vraiment un changement de stratégie de la part de Donald Trump, ou c'est bon, ça peut être interprété comme une sorte de mouvement d'humeur?
Non, c'est pas un changement de stratégie, parce que Trump voulait cet accord. Il le voulait d'autant plus, d'ailleurs, depuis la décision sur les tarifs douaniers à l'encontre de Pékin, hein, à plus de 145%, qu'il se trouve que Pékin, justement, par mesure de rétorsion, a mis des restrictions très fortes sur, justement, les terres rares et les minerais que j'évoquais, puisque la Chine, en réalité, a un quasi-monopole avec 70% des ressources en question. Et donc là, l'Ukraine devient un enjeu central, même si l'Ukraine ne représente que, en réalité, 5% effectivement des ressources minières mondiales en termes de terres rares ou de matériaux critiques, il demeure que c'est un sujet central pour les Américains. Je vais prendre un seul exemple, c'est le titane qui sert dans l'aéronautique militaire. Et on voit à quel point les enjeux dépassent un caractère strictement économique et commercial.
Alors, c'est ce que j'allais dire, David Grigoulet-Rouze, une grande perdante de cet accord, si je puis dire, c'est la Chine, parce que ces terres rares, elles servent à la production des smartphones, et c'est une denrée qui est principalement produite par la Chine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut envisager que ça impacte la guerre commerciale avec les États-Unis aujourd'hui?
Oui, ça ne va pas impacter de manière significative, parce que j'évoquais le fait que la Chine était détentrice de quelque 70% hein, des réserves mondiales. Et il y a un autre aspect, c'est qu'en réalité, l'exploitation de ce terrain c'est fait l'objet de mécanismes très polluants. Donc c'est évidemment un sujet sensible. Il y a des terres rares dans les autres pays. Simplement, elles ne sont pas forcément exploitées, justement, du fait des dégâts écologiques que ça peut entraîner. Donc, en l'occurrence, il y a un levier de pression de la Chine qui est très, très, très important, que Pékin a fait jouer, d'ailleurs, effectivement, en mettant des restrictions sur les exportations de terres rares. Mais l'Ukraine ne pourra jamais compenser la totalité. De toute façon, ça ne résoudra pas le problème de fond, même si ça le minimise et que ça permet, effectivement, à Donald Trump de sécuriser un certain nombre de ressources, justement, extra-américaines.
Donc aujourd'hui, l'impact de cet accord qui a quand même été annoncé ce matin en grande pompe, en fait, il est à modérer un peu.
Il est d'autant plus à modérer qu'en réalité, les terres en question ont fait l'objet d'évaluation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, en réalité, quels seront les retours, à la fois en termes d'exploitation et les retours financiers. À supposer que les réserves ont été bien évaluées. Donc c'est extrêmement difficile, c'est un pari en réalité, c'est un pari sur un potentiel, comme souvent c'est le cas par exemple avec des champs pétroliers, mais qui est évidemment qui demande des investissements considérables en amont, avec des résultats parfois incertains ou décevants, mais les enjeux sont tellement importants que, j'allais dire, selon l'adage, le prix en vaut la chandelle.
Eh bien, je vous remercie, David Grigoulet-Rouze, pour cet éclairage. Je rappelle donc que vous êtes chercheur à l'IFAS et chercheur associé à l'IRIS, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci, au revoir.